Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue à tous.
Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond, et je dois le dire, c'est vrai, non, c'est non.
À la une ce soir, ce non si douloureux qui n'a pas permis à la comédienne Stéphanie Bataille d'être présente aux côtés de son père mourant à l'hôpital où il avait contracté le Covid.
Aujourd'hui, elle se bat pour qu'aucune famille ne subisse plus jamais ce manque d'humanité.
Au sommaire également, Sanofi qui confirme ce soir une info qu'Europe 1 avait été la première à vous donner. Le laboratoire français va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid.
Aux Pays-Bas, une poignée d'antilles couvre-feu se livre depuis plusieurs jours à des dégradations. Didier François nous dira qui se cache derrière ces manifestations.
France, pacifiquement, eux, les enseignants dans la rue ce mardi pour demander davantage de moyens et dénoncer la gestion de la crise sanitaire. Et puis la dernière ligne droite pour les concurrents du Vendée Globe. Demain, à 7h06, Corinne Boulot devrait commencer à apercevoir le bout de leur mât au large des Sables-d'Olonne.
On a hâte. La météo avec Anissa, trois départements en vigilance orange.
Oui, ça se passe dans le nord-est, entre les Ardennes et le plateau de Langres. Attention au verglas et à la neige cette nuit et tôt demain matin. Les conditions de circulation risquent d'être très difficiles. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une femme qui se bat pour la mémoire de son père, mais aussi pour toutes les familles endeuillées par le Covid, la comédienne Stéphanie Bataille.
Oui, elle n'a pas eu le droit de dire adieu à ce père, décédé au début du mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, après avoir attrapé donc le Covid à l'hôpital où il était entré pour toute autre chose.
Et à la mi-journée sur Europe 1, elle a expliqué à Patrick Cohen pourquoi elle avait décidé de prendre la parole.
J'ai vu un établissement où il manque du personnel, où il n'y a pas de gel hydroalcoolique à l'entrée. Il n'y a pas, le ménage n'est pas assez bien fait. Évidemment, c'est très important de parler de ça. Mais moi, je voudrais être le témoin de ces milliers de gens qui sont partis de façon indigne, avec des familles qui sont dévastées. Je ne veux plus que ça existe. Je serai la porte-parole jusqu'au bout. Je veux qu'il y ait de la dignité. Attraper déjà la Covid à l'hôpital, c'est quand même fou.
Que se passe-t-il quand on apprend que votre père est positif au Covid ?
Il a été placé en unité Covid, formidablement reçu par des médecins, mais avec une direction au-dessus, avec interdiction d'aller voir les patients qui ont la Covid. Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond, et je dois le dire, c'est vrai, « non ». C'est non. Ça n'existe nulle part. On a réussi à rentrer en contact avec lui, mon frère, ma mère et moi. Et grâce à un écran qui appartient à l'hôpital. Et là, il nous demandait « faites-moi sortir, je vais crever ». Comment c'est possible ? Mon père est parti en martyr. Évidemment, c'est pour lui que je me bats, pour sa mémoire.
Et en vous réclamant, mais... en réclamant ses enfants.
Ah mais bien sûr.
Oui, le témoignage absolument bouleversant de la comédienne Stéphanie Bataille, qui était donc l'invitée de Patrick Cohen à la mi-journée sur notre antenne.
Alors on a eu envie de comprendre comment il était possible aujourd'hui de vivre des choses aussi douloureuses, aussi bien pour les patients que pour les familles. Ces scènes étaient malheureusement courantes lors de la première vague, mais on découvrait alors un virus inconnu, les hôpitaux étaient débordés. On pensait pourtant qu'on en avait tiré les enseignements.
Oui, Jean-Gabriel Bourgeois a joint le professeur Djilali Annan, le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en banlieue parisienne. Il lui a demandé s'il y avait des consignes au niveau national pour interdire ces visites.
Il n'y a pas de disposition nationale qui interdise que les patients atteints de Covid-19 ne puissent recevoir la visite de leur famille. Il y a un an, lorsque la pandémie a commencé en France, effectivement, les visites aux patients, en particulier en réanimation, étaient strictement interdites à tous les membres de la famille. On sait maintenant que cela a été une erreur. Et donc, aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs mois, les visites sont autorisées, bien évidemment, voire même encouragées dans mon service, car on sait que ces visites des familles à leurs proches hospitalisés en réanimation sont importantes à la fois pour les familles et à la fois pour le patient.
Djilali Annan, le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, joint pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois. Et on précise que l'APHP s'est donc engagé à répondre à la famille de Stéphanie Bataille.
Et alors qu'un nouveau confinement n'est toujours pas d'actualité, en tout cas pas dans l'immédiat, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait une mise au point ce matin sur les vaccins.
Oui, vous savez qu'il était envisagé de rallonger le délai entre la première et la seconde injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Eh bien finalement, ce ne sera pas le cas par mesure de sécurité, a dit donc Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Il ne doit pas y avoir plus de 3 ou 4 semaines entre les deux. Et puis, je vous le disais dans les titres, on a par ailleurs ce soir la confirmation d'une information qu'Europe 1 avait été la première à vous révéler dès le 7 janvier. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Sanofi va bien prêter ses usines pour produire les vaccins aujourd'hui disponibles sur le marché. La direction de l'entreprise vient à l'instant de le confirmer.
Oui, et c'est historique dans ce monde très concurrentiel de la pharmacie. Concrètement, Sanofi va mettre à disposition de Pfizer-BioNTech son usine de Francfort en Allemagne. Alors, je suis sûr que vous dites, mais pourquoi donc cette usine en Allemagne ? Parce que tout simplement, elle est à côté du siège de BioNTech, qui est une biotech allemande. La production va débuter au mois de juillet. Sanofi devrait pouvoir fournir plus de 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Ces doses seront destinées à l'Union européenne et donc en partie à la France. La direction de Sanofi, avec qui j'étais ce soir, le reconnaît. Face à une telle crise, on doit le faire. On ne doit pas avoir de regrets. En effet, le vaccin de Sanofi a du retard. La direction vise une mise sur le marché, si tout va bien, au dernier trimestre de cette année. Oui, on aura 5 mois de retard, mais on peut aussi dire que l'on aura 4 ans d'avance par rapport au temps normal pour produire un tel vaccin. On est en tout cas très confiant dans notre vaccin, précise ce soir Paul Hudson. Pour le patron monde de Sanofi, le vaccin français pourrait être plus efficace contre les mutations du virus.
Emmanuel Duteil, chef du service Écho d'Europe 1.
Et à ne pas rater justement demain, soirée spéciale dans Europe Soir avec le patron France de Sanofi. Il sera notre invité pour un grand entretien vérité, Olivier Bogilot, à partir de 19h15. Les Pays-Bas à nouveau en proie à des émeutes pour dénoncer le couvre-feu. 3e nuit consécutive. Hier, plusieurs centaines de manifestants ont affronté les forces de l'ordre et se sont livrés à des pillages et des dégradations de bâtiments publics.
400 arrestations, dont 150 au cours des dernières 24 heures. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le Premier ministre hollandais reconnaît que ce sont les pires émeutes connues par son pays depuis 40 ans.
Oui, un déchaînement de rage extrêmement impressionnant, très violent, avec des vitrines brisées dans toutes les grandes villes et les grands centres urbains. Amsterdam, Rotterdam, La Haye, il y a la gare de Eindhoven qui a été totalement dévastée. Des policiers qui ont été menacés avec des couteaux par les pilleurs et les vandales. Mais surtout, cette vague de violence n'a pas seulement touché les métropoles, puisque un hôpital a été attaqué dans une bourgade qui s'appelle Enschede sur la frontière allemande, et on a même vu des casseurs s'attaquer à un centre de dépistage qu'ils ont totalement saccagé avant d'y mettre le feu dans une petite ville qui s'appelle Urk. Et ça, c'est inquiétant parce que, évidemment, ce mouvement reste quand même très minoritaire. Les Hollandais soutiennent majoritairement les mesures de protection sanitaire du gouvernement, mais les dégradations ont touché l'ensemble du pays, jusque dans ces régions les plus rurales qui sont habituellement épargnées par ce type d'éruptions protestataires.
Oui, un pays qui n'a pas l'habitude d'ailleurs de ces flambées de violence. Alors, est-ce que l'on sait qui a participé à ces émeutes ? Quel est le profil de ces émeutiers ?
Oui, figurez-vous, c'est un assez étrange amalgame qui agrège différents courants de protestation autour justement du rejet du confinement. Les plus radicaux, ce sont les mouvements religieux, conservateurs protestants, qui estiment que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Ils sont en général aussi anti-vaccins. Et ce sont eux qui ont attaqué, par exemple, le centre de dépistage à Urk. On a d'ailleurs observé des relations équivalentes en violence ce week-end dans les quartiers orthodoxes juifs à Jérusalem, en Israël. Ensuite, il y a les partis d'extrême droite qui font campagne contre le Premier ministre sortant, un libéral, parce qu'il va y avoir des élections aux Pays-Bas en mars prochain et qu'ils veulent capitaliser sur le ras-le-bol général face à la population. Ça aussi, on le retrouve un peu partout, en Allemagne, au Danemark ou aux États-Unis. Et puis, il y a les jeunes mécontents qui estiment être les laissés pour compte, les premières victimes des mesures de lutte contre un virus qui vise à protéger les plus vulnérables et donc les plus âgés. On voit ce mouvement qui prend de l'ampleur au Liban, par exemple, ou en Italie. En fait, tout ça est assez révélateur d'une certaine lassitude dans les populations qui sont soumises aux impacts de la pandémie depuis plus d'un an, ce qui complique quand même singulièrement la tâche des autorités.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h. L'affaire Olivier Duhamel maintenant. Victor Kouchner a donc porté plainte contre son beau-père.
Dans le livre Familia Grande, que sa sœur jumelle, c'est dans ce livre que sa sœur jumelle Camille avait révélé les agressions sexuelles dont il avait été victime dans son enfance de la part du politologue. Et puis aux États-Unis, l'affaire Harvey Weinstein qui rebondit. L'ancien producteur a conclu un accord financier avec 37 des 45 victimes présumées. L'ancien magnat d'Hollywood va donc dépenser 17 millions de dollars pour que ses plaignantes abandonnent leur poursuite judiciaire à son encontre. Les 8 autres femmes qui n'ont pas accepté cet accord vont poursuivre Harvey Weinstein.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans un instant, on vous parle des enseignants qui étaient dans la rue aujourd'hui.
Et puis les héros du Vendée Globe qui finalement auront droit quand même à une aide d'honneur à leur arrivée au Sable d'Olonne.
Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
La suite du journal 19h11, on parle de la colère enseignante, crise sanitaire, mal gérée, prof mal payé. Ce sont quelques-uns des slogans que l'on a pu entendre aujourd'hui dans les rues de plusieurs villes de France.
Oui, quelques milliers de personnels de l'éducation nationale, rejoints par les infirmiers scolaires et parfois par des lycéens et même des étudiants, ont manifesté pour dénoncer donc leurs conditions de travail dans cette période troublée. Stéphane Place, vous leur avez tendu le micro Europe 1 dans les rues de Bordeaux.
Oui, dans le cortège aujourd'hui, c'est de reconnaissance, de revalorisation dont parlaient ces enseignants qui, s'ils ne réclament pas uniquement des augmentations, estiment toutefois qu'elles sont légitimes, en particulier dans la période que l'on traverse. C'est en tout cas ce que défend Nicolas, professeur des écoles en Gironde.
Les enseignants, ils ont été au front aussi pendant le premier confinement, pendant le deuxième confinement aussi. On reçoit des courriers pendant les week-ends, on est H24, et puis il y a bien de l'argent aussi pour les entreprises, pourquoi il n'y en aurait pas pour les fonctionnaires? C'est pas compliqué, bac plus 5, 20 ans de carrière, 2 000 euros, 2 100 euros, après impôt, net.
Un peu plus loin dans la manifestation, Stéphanie, elle enseigne l'anglais dans un collège des Landes.
Si on est là aujourd'hui, c'est pour les salaires, mais pas que, c'est avant tout pour les gamins. On est essentiel, tout comme les soignants, les policiers et bien d'autres métiers. On a besoin de nous, mais on peut voir tous les graphiques de l'OCDE, notre salaire est misérable.
Et d'ailleurs, insiste Olivier, professeur de mathématiques à Bordeaux, de meilleures conditions de travail, c'est favoriser la réussite des élèves.
Il y a une surcharge d'effectifs, puisqu'on passe quand même régulièrement à 32, voire 33 élèves dans chaque classe, ce qui dégrade considérablement l'ambiance de travail pour les élèves. Hein. Les élèves ont les masques, il y a des protocoles qui sont mis en place, mais en dehors du protocole sanitaire, de toute façon, dans une classe de 35 mètres carrés à 32 ou 33 élèves, de toute façon, ce ne sont pas de votre son travail.
Garantir la qualité du service public et donc l'égalité des chances, c'est ce qu'ont martelé ces enseignants.
Le reportage signé Stéphane Place à Bordeaux. Direction maintenant les Sables d'Olonne, où notre envoyée spéciale Corinne Boulou a déjà installé sa longue vue et scrute l'horizon.
Et oui, car cette fois c'est une question d'heures, 24 heures ou un peu plus, avant l'arrivée du sprint final du Vendée Globe qui s'annonce plus haletant que jamais, Corinne. Hein.
Oui, ici on sent que le dénouement approche dans un vent tempétueux qui s'est levé. Dans un peu plus de 24 heures, le premier monocoque en effet devrait montrer le bout de son nez au large des Sables d'Olonne. Alors au dernier pointage ce soir, Charlie Dalin conserve l'avantage sur Boris Herrmann à 150 km derrière lui. Plus au nord, Louis Burton est à 230 km, suivi par Thomas Ruyant et Yannick Bestaven. Après 36 jours aux commandes de la course, Charlie Dalin multiplie les manœuvres en ce moment le long du Cap Finistère, à la pointe de l'Espagne, avant de plonger dans le golfe de Gascogne pour rejoindre la Vendée. Interrogé par le PC Course, il reconnaît être trop concentré sur cette folle fin de course pour penser à sa dernière nuit en mer.
Ça fait tellement longtemps que je suis en mer que j'ai oublié que la vie à terre existait vraiment. Hein. Et voilà, ma norme, c'est être sur Apivia, c'est être sur mon bateau. Et j'arrive pas du tout, mais du tout, à me dire que l'arrivée est imminente. Je suis vraiment extrêmement concentré sur les heures qui viennent, là, sur tous les obstacles qui me restent à franchir. Et voilà, c'est un peu mon état d'esprit du moment.
Charlie Dalin est bien parti pour franchir le premier la ligne d'arrivée. Il est lancé aussi dans un contre-la-montre pour éviter que les bonifications accordées à Boris Herrmann et Yannick Bestaven pour le sauvetage de Kevin Escoffier ne viennent contrarier son projet de gagner le Vendée Globe. Il doit mettre Boris Herrmann à plus de 6 heures derrière lui et Yannick Bestaven à plus de 10 heures et 15 minutes pour pouvoir s'imposer en temps réel et en temps compensé. Il va falloir donc sortir les calculettes aux arrivées demain soir.
Merci Corinne Boulou en direct des Sables d'Olonne pour Europe 1. Et finalement, 300 bénévoles seront autorisés apparemment à former une haie d'honneur le long du chenal lors de l'arrivée des concurrents. Ça ne sera pas comme les milliers de personnes qu'il y a habituellement, mais ça devrait quand même leur faire du bien au moral.
Un peu de chaleur après plus de 2 mois passés en mer, ça n'est pas rien. Merci Isabelle, on vous retrouve évidemment demain.